Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David. On te retrouve tout à l'heure après l'émission, comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Paul Normand et Patrick Goulesque. Ils vont nous parler de la benne en bulle. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour, mais ça va très bien, merci.
Bonjour, pareil, très bien.
Et voilà, alors on a un passionné de bulles et un créateur de bulles aussi. Je pense, si on dit bulliste, c'est pas mal ça, bulliste.
Oui, oui, bulleur.
Ouais, ça fait un peu feignant ça.
Un peu.
Très bien, on va, donc vous allez voir, on va parler du festival La Benne en Bulle qui arrive bientôt. Hein, vous avez bien compris quel était le sujet. On va passer une petite heure ensemble pour découvrir nos invités. On va d'abord écouter les joyeusetés qui se passent dans le monde et dans la France en ce moment. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, nous retrouvons nos invités, Paul Normand et Patrick Goulesque. Alors messieurs, la tradition ici, c'est une petite trajectoire personnelle pour commencer. Ce qui est intéressant, Patrick Goulesque, c'est que lui, sa trajectoire est très liée, intimement liée au sujet, puisqu'il est de la partie, hein, quand même, vraiment, c'est un créateur, un créatif, un illustrateur, dessinateur, la liste est longue, on verra ce qu'il nous raconte. On va commencer peut-être par lui. Allez, alors, une petite bio, là.
Une petite bio vite fait.
Allez.
Passionné de bande dessinée depuis tout petit. Une classe de dessin au lycée, voilà, une spécialisation de dessin au lycée Histoire de l'art. 2-3 années aux Beaux-Arts de Toulouse. Et puis voilà, je me suis installé assez jeune à mon compte comme dessinateur, au départ publicitaire. J'ai travaillé pour pas mal d'agences sur Toulouse à une époque où il y en avait un certain nombre. Et puis les éditions Milan pendant 23 ans, la presse jeunesse. Dargo, Bambou, tout un tas d'éditeurs, Plumes de Carottes, du dessin pour essentiellement pour la jeunesse, de la bande dessinée, des scénarios, de la couleur, un petit peu de tout. Et surtout, énormément d'ateliers graphiques en milieu scolaire et dans d'autres milieux comme le milieu carcéral et d'autres choses comme ça.
D'accord, alors les Beaux-Arts, ça a été, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas fait, est-ce que ça a été vraiment, entre guillemets, utile et est-ce qu'on apprend, on n'apprend pas à dessiner aux Beaux-Arts, me semble-t-il ?
Alors, j'ai pas envie non plus de me faire taper dessus.
Non,
moi ce que j'ai appris aux Beaux-Arts, oui, c'est à faire la fête essentiellement, mais il y a des gens qui trouvent vraiment leur voie. Je pense on les fait avec ce qu'on y amène aussi un petit peu. Moi, ça a pas été ultra déterminant dans le sens où déjà j'avais une petite culture de ce que j'avais envie de faire. Et puis je dessinais beaucoup à l'époque et très très passionné de bande dessinée, d'illustration. Donc c'est pas réellement aux Beaux-Arts, du moins c'est à cette époque-là qu'on apprenait ce genre de choses. On apprenait plutôt à défendre verbalement des idées qu'à les réaliser, mais pas dans tous les ateliers. Il y a qu'un des ateliers de sculpture, de peinture ou d'illustration où on continuait quand même à beaucoup pratiquer.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. C'est un bon début, ça. On va se tourner vers Paul. Paul Normand, parlez-nous de vous.
Alors moi, effectivement, je ne suis pas du tout du milieu à la base. Ma mère dit que je dessinais quand j'étais plus jeune. Moi, je suis technicien aéronautique. Donc j'ai une formation scientifique et technique. J'ai toujours aimé la BD étant plus jeune et avec des copains, ils m'ont emmené au festival de la BD d'Angoulême il y a 15-20 ans.
La Mecque.
Ouais. Et donc c'est devenu un rituel, oui. Patrick fait la grimace.
Sur le fût.
Voilà. donc c'est devenu un rituel un petit peu tous les ans et effectivement ça nous a permis ça m'a permis, moi, de faire des rencontres, de confirmer que j'aimais ça et de vivre le temps d'un week-end une passion de la BD.
D'accord. Alors, donc, on va parler un petit peu de cette association, La Benne en Bulle, puisque, parlons-en, cette passion, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va parler un petit peu d'historique. Ça a démarré quand, comment et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pris ?
Alors, la genèse de cette association, c'est c'était en 2021. En fait, c'est le Covid. Le Covid a changé le monde.
Il arrive dans toutes les émissions, le Covid.
Mais je pense, oui, parce qu'il y a, y a un après-Covid.
Oui.
Et donc, une année, on n'a pas pu aller, pendant le Covid, on n'a pas pu aller au festival. Et on s'est dit un petit peu... l'idée a d'abord germé dans ma tête. Je suis allé voir les copains en leur disant, mais pourquoi est-ce que nous, on n'en ferait pas un? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre festival? Sachant que bon, dans le coin, on n'a pas tant que ça. Et c'est fou, ils m'ont suivi.
Et voilà.
Et voilà. Donc 2021, on est arrivé, on est toqué à la porte de la mairie et on s'est fait mettre dehors.
Paf.
Parce qu'on n'était pas prêt.
Ouais.
Voilà. Donc on a grandi, on a écouté un petit peu les commentaires, les critiques tous les conseils qu'on a pu nous donner. Et on a fait notre première édition du coup en 2022. Et le festival en fait est là pour ça, pour offrir ce que nous on aime aller trouver à Angoulême, pour l'offrir aux gens du coin sans forcément aller très loin.
Oui, bah c'est bien, de toute façon il faut bien proposer des diverses choses à divers endroits parce que la terre est vaste, hein,
c'est ça.
Et les Landes elles sont vastes et peu denses, donc effectivement il faut travailler le maillage un petit peu sur le territoire, hein, pour que les gens puissent avoir accès à toute forme de culture, hein. Et alors est-ce que vous aviez déjà une orientation là, parce que là on va en parler tout à l'heure, il y a manga, BD, alors je sais même pas si on est censé faire une réelle différence entre manga et BD. Est-ce que le terme BD peut être suffisamment générique pour englober les mangas ou pas? Qu'est-ce qu'il pense le spécialiste, sans vouloir se faire des ennemis encore une fois?
Moi je pense qu'il n'y a pas de différence. Le manga c'est de la bande dessinée, tout simplement. Si on part du principe que la bande dessinée c'est une histoire qui est racontée avec plusieurs dessins dans plusieurs vignettes, avec des bulles, avec des onomatopées, etc., etc. Le manga rentre complètement dans ce cadre-là, quoi. Donc on dit manga parce que on va dire c'est un courant qui arrive des pays asiatiques, essentiellement du Japon, effectivement. Mais voilà, c'est de la bande dessinée. Après tout, ici, dès qu'on fait, dans nos pays occidentaux, dès qu'on fait de la bande dessinée égrenée, un petit peu humoristique, on appelle ça de la BD franco-belge. Ouais. Mais ça reste quand même de la bande dessinée.
Oui, oui. Alors, les mangas, peut-être, alors, vous allez peut-être me corriger. Hein. C'est peut-être aussi, il y a une appétence particulière pour une certaine tranche d'âge, on va dire. Hein. Parce que, alors, moi qui suis... tout jeune, on est à Souvenir FM, encore une fois, je le rappelle, j'en fais partie des souvenirs aussi. Voilà, on l'a vu arriver, alors j'allais parler du Club Dorothée, enfin c'est tout bête, mais franchement, hein, ça reste quand même un moment donné où tout à coup, culturellement, tac, on a eu accès à une tranche, hein, de culture japonaise essentiellement. Où est-ce qu'on en est? C'est qui les fans de manga? C'est tout le monde maintenant ou il y a des tranches?
Alors, je pense que il y a de plus en plus de monde, effectivement, puisqu'on a nos générations, hein, qui ont connu le Club Dorothée, qui ont découvert le manga via les dessins animés qu'on voyait, les animés qu'on voyait à l'époque.
Ouais, voilà. Ouais.
Et notre génération maintenant est devenue parents. Et en plus de ça, bon, les mangas ont continué à prospérer en France. Ouais. Donc, effectivement, je pense que notre génération et les nouvelles générations sont concernées par le manga. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes, de cet univers-là sur des festivals comme le nôtre.
Ouais. Il y a peut-être une transmission transgénérationnelle aussi. Peut-être que vous-même, vous avez pas contribué à répandre, à contaminer de votre passion les plus jeunes aussi.
Oui, assurément, oui. Moi, j'ai mes enfants, mon fils lit Dragon Ball. Mon fils qui est adolescent lit Dragon Ball.
Et voilà.
Et forcément, c'est ce qu'on a découvert avec le Club Dorothée.
Ouais. Ouais. Il préfère ça à Victor Hugo, tu veux dire?
Oui.
Il y a eu un petit un sujet à propos les sommes qu'on donne aux enfants pour qu'ils puissent avoir accès à la culture, le pass culture. Hein. Il y a eu une petite histoire par rapport à ça. Les gens disaient, cet argent-là, c'était pas trop pour qu'ils achètent des mangas, mais plutôt pour qu'ils aient accès à de la littérature. Est-ce que c'est pas une forme d'élitisme de dire ça quelque part?
Oui, c'est surtout pas très très réaliste, soyons clairs. Ce qu'on appelle, et ce qui continue à s'appeler le chèque culture, qui est de l'ordre de 30 euros, je crois, par enfant, c'est selon l'âge. Mais lorsque on interroge, moi je sais que lorsque j'en parle avec mes amis libraires, 90% de ce chèque, effectivement, culture passe effectivement dans l'achat de manga, très très souvent, quoi. C'est assez énorme.
Quand la prime TV de rentrée scolaire, c'est une télé, c'est ça aussi, c'est pareil.
Ouais.
Enfin, bon, on reste dans les caricatures un peu, bien sûr.
Un petit peu.
Un petit peu, ouais, j'avoue. Alors, on va faire une première petite pause, on va écouter un petit peu de musique, on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et voilà, c'est reparti. On discutait pas mal hors antenne, évidemment, de technique, de BD, d'estampes japonaises, etc. Rien de licencieux, je vous rassure. Hein. Mais voilà, donc c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est quand même que tout le monde intéresse, tout le monde est intéressé par ça. Qui n'a pas lu une BD dans sa vie ? Il y a des gens qui ont certainement lu plus de BD que de livres, mais je crois que c'est un passage obligé, hein, la BD. Hein. Donc du coup, vous êtes dit, je retourne vers l'association, vous êtes dit, ben voilà, il faudrait créer un festival qui nous permettrait à tout le monde de pouvoir accéder un peu à ça. Alors ça a démarré, comment ça a dû démarrer tout petit, j'imagine, enfin plus petit en tout cas que ça l'est maintenant.
Pas tant que ça,
ouais.
En fait, pas tant que ça, le local reste le même, et la première année, on a été agréablement surpris, puisqu'on a, sur le week-end, on a dépassé les 800 visiteurs.
Oui, c'est pas mal.
Ouais, on était plutôt contents.
Ouais.
Donc, maintenant, la difficulté, c'est de se renouveler chaque année, de rajouter quelque chose, parce qu'il ne faut pas que les gens viennent d'une année sur l'autre et se disent « oui, bon, maintenant, c'est un peu toujours pareil ». Mais ça nous a mis quand même une petite pression, la première année, parce que deuxième année, on s'est dit « il faut faire mieux ».
Et oui, forcément, on est toujours dans cette perspective-là, Donc là, c'est la quatrième année,
Quatrième année, donc on est un peu plus rodé, on se creuse toujours la tête, parce qu'il faut, comme je disais, il faut continuer à innover, il faut continuer à intéresser les gens, parce qu'on a déjà entendu des gens dire « oui, bon, on a déjà vu l'année dernière ». Donc ça, c'est un peu dommage, sachant que même si on a des artistes, des auteurs ou des activités qui reviennent d'une année sur l'autre, on a aussi des nouveautés, des personnes, des artistes qu'on n'avait jamais présentés, jamais fait venir.
Et en termes de planning, là, vous êtes sur deux jours, là, vous étiez sur deux jours au départ aussi
Oui,
D'accord. Ouais.
On conserve la même formule,
d'accord.
Deux jours de 10h à 18h et avec un concert le samedi soir. Dans un bar partenaire à la fabrique Craft Beer. Et pendant ce concert, en fait, des artistes se relaient au crayon, on filme ce qu'ils dessinent, concert dessiné. On projette ça sur grand écran pendant le concert, c'est assez sympa, on passe un bon moment. Les artistes aussi, je pense, Patrick, tu l'as fait l'an dernier.
Donc au fur et à mesure que se déroule le concert, un petit peu comme on a des fois des illustrateurs dans les émissions de télé, ils montrent un peu ce qu'ils ont dessiné comme caricature ou autre. C'est un peu le même principe, en s'inspirant du moment, de l'ambiance, de la musique, vous dessinez quelque chose, comment ça se passe ?
Oui, c'est un petit peu ça. Soit on se met d'accord, puisque l'année dernière, on était deux à travailler ensemble. Soit on se met d'accord dès le départ sur un sujet ou une envie commune. Soit effectivement, on fait une sorte de comment appeler ça ?
Un dialogue.
Dialogue dessiné.
Marabout de ficelle.
Oui, un marabout bout de ficelle, c'est un petit peu ça. C'est y en a un qui commence à dessiner un truc et l'autre qui essaye de rebondir dessus, en essayant quand même d'être un petit peu en lien avec soit ce qui se passe, soit avec soit parler effectivement du festival, c'est-à-dire de montrer aux gens qu'on est là aussi pour une raison particulière.
Il faut créer une narration quand même. C'est un petit peu le boulot de votre boulot en fait. De créer une histoire en dessinant.
Oui, sauf que là, il faut raconter une histoire avec un seul dessin. Il faut essayer de taper un petit peu juste et surtout d'étonner aussi un petit peu les gens. Mais je pense qu'ils sont étonnés de toute façon, puisque c'est projeté au fur et à mesure que le dessin se crée, dont les gens voient le crayon, le stylo, parcourir la feuille.
Oui, ça c'est bien ça.
Voilà, et c'est entre les premiers traits où on ne sait pas trop où on va et le dessin fini, oui, effectivement, il y a une histoire qui se crée. Quoi.
Voilà. Alors, moi j'ai une question aussi à poser, assez technique, hein, mais bon voilà, alors du coup, tablette graphique ou crayon papier? Enfin, c'est, alors le ou n'est peut-être pas de circonstance, c'est peut-être et d'ailleurs, hein, souvent. Comment, vous travaillez de quelle manière, hein?
Alors moi, je fais des histoires de dinosaures parce que je suis moi-même un dinosaure.
Oui,
voilà,
oui.
Il faut bien le dire.
Il y en a dans le coin.
Ouais, il y en a. Il en reste.
La bucle à dinosaures.
Voilà. Moi, je dessine toujours crayon papier parce que je crois que j'ai besoin de ce contact. Là, j'ai besoin d'avoir une feuille blanche devant moi, de tenir un crayon à papier. Et 45 ans après, je suis toujours surpris de ce qui sort de tout ça. C'est-à-dire, on part avec une idée, puis on laisse le crayon faire un petit peu. Pas tout seul, évidemment, mais quand même. Et puis, il y a les accidents. Il y a, il y a le trait qui n'est pas prévu, mais qui finalement est assez sympa. Voilà. Et puis, je trouve que c'est, y a une certaine sensualité dans ce rapport avec un crayon, un bout de papier.
Chose
voilà.
artisanale.
Oui, ça, c'est un côté assez artisanal que j'ai essayé la tablette. Franchement, il me manque quelque chose.
Ouais, dedans, c'est vrai, ouais. Quoi.
Et puis, crayon papier, on garde, entre guillemets, on garde des originaux. C'est-à-dire, on garde un dessin qui a été fait. C'est pas tout à fait la même chose sur une tablette et un ordinateur. Quoi.
Peut-être que le confort du contrôle Z est peut-être l'inconvénient à la création.
Alors, c'est pas un inconvénient, c'est un superbe outil. Moi, je m'y suis mis, comme la plupart de mes camarades, il y a quand même plus d'une trentaine d'années, quand ça a commencé à se développer. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais pour la presse, et comme son nom l'indique, c'était toujours pressé. Donc, travaillais pour 8 magazines en même temps. Donc, j'avais plus le temps de peindre mes dessins à l'aquarelle, aux écolines ou à la gouache. Et l'ordinateur, les logiciels, ça a été une solution formidable.
Ah oui, oui.
Mais effectivement, c'est aussi un piège. C'est-à-dire que comme on peut changer ad libitum,
c'est ça. On tombe dans ce
tout ce qu'on fait, on peut passer des heures et des heures à refaire un ciel.
C'est ça. C'est pareil pour la musique électronique. C'est la même chose. On a tendance à et puis en fin de compte, on passe de 10 jours à faire un truc qui aurait dû prendre que 10 secondes en fin de compte.
Oui, finalement, c'est extrêmement chronophage.
Ouais. Parce que un dicton que je dis souvent de ma défunte mère, le mieux est l'ennemi du bien. Et j'aimais bien cette expression, parce que ça veut dire aussi que dans un processus de création, on fait quelque chose, à un moment donné, il faut savoir dire, ben non, c'est bon, là, stop, ça sert à rien, je vais esquinter, je vais pas arranger, en fait, c'est fait, c'est comme ça, c'est bon.
Oui, il y a, je crois, là-dedans aussi une question d'acceptation, c'est-à-dire la recherche du geste ou du produit parfait, c'est un petit peu utopique, quoi. La perfection, justement, je pense que plus on attend pour essayer de l'atteindre, mieux c'est. Parce que c'est un travail qui demande une évolution permanente, une remise en question permanente, une réflexion permanente, voilà.
Ça peut être épuisant, d'ailleurs je reviens aux infos qu'on a écoutées tout à l'heure avec les gamines et TikTok. Voilà, cette fuite là en avant de recherche d'une image, de quelque chose de dicté par vraiment un diktat de l'image qui est vraiment, c'est un peu le tyran de notre société un petit peu quand même.
Oui, et puis c'est un puissant fond de toute façon.
Oui, c'est ça,
voilà.
Et oui, il faut en être conscient. On va faire une deuxième petite pause, écouter la musique, le Flash Info Local, et on pourra parler un petit peu du programme de ce festival, parce qu'il y a vraiment plein de choses, je dirais quantitativement et qualitativement. Hein, bien sûr, on va pouvoir voir, on va pouvoir faire aussi, et on va pouvoir écouter, et ça c'est cool. Hein. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve ensuite. Et voilà de retour, bon, on ne pouvait pas louper ce morceau avec Gainsbourg, bien sûr, et Brigitte Bardot aussi, qui nous a quittés. Ils sont ensemble sûrement en ce moment, en train de regarder des BD, ou pas. Alors parlons de ce festival, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment plein de choses, et ce n'est pas juste une exposition où on passe devant des planches exposées au mur, loin de là.
Exactement. Alors le but du festival, comme je disais, c'est déjà de permettre l'accès à cet aspect de la culture au plus grand nombre, donc l'entrée est gratuite, et on peut trouver déjà des auteurs et des auteurs, scénaristes, illustrateurs de BD qui sont là, qui sont présents en dédicace, Et on a également une exposition dans la salle d'artistes qui ne sont pas auteurs de BD, qui ne sont pas illustrateurs de BD, mais qui sont des artistes graphiques. Mmh. Et on propose aussi des ateliers. Donc l'entrée est gratuite, les ateliers sont payants, puisque ce sont quand même des artistes qui travaillent.
Oui, oui.
Ce sont ceux qui sont présents sur le festival qui vont dispenser des ateliers justement au public désireux d'apprendre un petit peu à faire quelques traits.
Ben oui, c'est normal. C'est comme quand on aime bien manger, à un moment donné, on a envie de faire la cuisine. Enfin, je sais pas, ça me semble naturel. Ben. Donc, alors d'ailleurs, Patrick, vous avez un atelier, on peut avoir affaire à vous.
Ah ben, bien sûr, avec plaisir.
Qu'est-ce qui va se passer alors ?
Oula, beaucoup de choses. Moi, en fait, j'aime bien travailler sur les personnages. J'aime bien travailler sur le mouvement, sur les expressions, sur ce qui rend un dessin un petit peu vivant.
Mmh.
Voilà. Parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille avec des enfants.
Mmh.
Et avec des adultes d'ailleurs aussi. Et puis je me rends compte que très souvent, on a tendance à penser que le dessin, c'est un visage par exemple, avec tous les détails qui sont bien faits, etc., etc. Mais on oublie souvent que c'est pas les détails qui font, qui rendent ce dessin-là particulièrement intéressant. Mmh. Ce qui le rend intéressant, c'est justement ce petit regard, ce petit rictus de la bouche, la position d'un corps, etc. Mmh. Et c'est quelque chose que j'aime bien transmettre au moyen de techniques relativement assez simples. Mmh. Voilà, on fait des petits bonhommes bâtons, on les fait bouger dans tous les sens, on les fait sourire, crier, pleurer, etc., etc.
Après, c'est vrai que ça peut, on peut avoir un peu peur, on peut avoir envie de dire. Mais alors, ça va être compliqué, etc. Je n'ose pas trop me lancer. Je ne sais pas dessiner. D'ailleurs, est-ce que ça existe, ça ? Comme il y a des gens qui ne savent pas chanter, soi-disant, il y a des gens vraiment qui ne savent pas dessiner ou tout le monde peut dessiner, en fin de compte ?
Alors, moi, je ne sais pas chanter. Mais par contre, oui, quand j'entends ça, oui, mais moi, je ne sais pas dessiner. Alors, moi, je réponds d'une manière un peu systématique que c'est une erreur, que tout le monde sait dessiner, mais que la plupart des gens ne le savent pas encore.
C'est ça, oui. Oui. C'est doit être vrai pour la plupart des pratiques artistiques, hein, je pense. Hein.
Oui.
Je crois que c'est vraiment, on a des fois le syndrome de l'imposteur. Il y en a qui devraient l'avoir un peu plus, mais bon, ça dépend des gens.
Oui.
Si je peux rebondir, je me souviens d'un prof d'art plastique, une fois, qui nous avait demandé qui s'est dessiné. Premier jour d'art plastique, qui s'est dessiné ? Personne n'avait levé la main. Et il nous avait demandé d'écrire notre nom, notre prénom sur une feuille. Donc on a tous écrit notre nom, notre prénom sur une feuille. Il nous a tous regardé en disant « Mais vous voyez, vous savez dessiner. »
Et paf.
Je rejoins un peu Patrick là-dessus. Oui. Je pense qu'on sait tous, à chacun à son niveau, dessiner un petit peu.
Oui.
Il suffit maintenant de vouloir l'explorer.
Oui. C'est vrai qu'il peut y avoir des BD entre guillemets, qui sont entre guillemets, moches, le graphisme est moche, voire même qui heurte un petit peu l'esthétique ou la sensibilité. Voilà. Mais c'est comme un tableau ou un morceau de musique. Des fois, c'est fait pour botter les fesses, ce n'est pas forcément pour caresser dans le sens du poil une œuvre.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'une œuvre s'adresse à un public de toute façon et s'adresse essentiellement à une sensibilité. Mmh. On n'a pas tous la même sensibilité, on ne va pas tous s'intéresser aux mêmes choses, mais il suffit dans sa vie, des fois, de croiser quelqu'un qui vous fait ressentir des choses fortes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais gamin.
Mmh.
Deux, trois dessinateurs voilà, qui ont été très très déterminants, dont le travail a été déterminant et qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Je pense que c'est valable pour la musique, la peinture, la sculpture, n'importe quel art, la littérature bien évidemment.
Mmh.
Il suffit d'être à un moment donné ému, touché, de rire parfois, de ressentir en tous les cas une émotion face à une œuvre. Et voilà, il s'est gagné.
Un petit peu le syndrome de Stendhal, sauf que lui, c'était vraiment très fort.
Oui, tout à fait.
Mais bon, c'est vrai que c'est ce qu'on cherche dans l'art, hein, souvent. Alors oui, dans les ateliers, si je vois, il y a calligraphie japonaise. Alors, on parlait de savoir dessiner quand on sait écrire. Alors, la calligraphie, c'est vraiment le point de contact entre l'écriture et le dessin. C'est,
Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs un atelier qui a été assailli. Si, je ne sais même pas s'il reste des places. Dès les premiers jours, il a été assailli. La calligraphie japonaise, c'est ça permet de travailler les mouvements du poignet. En plus de ça, c'est vrai que comme on est, on ne parle pas, on ne lit pas le japonais. Tous ces kanji, tous ces caractères japonais, ça a quelque chose de mystique un petit peu. Donc c'est pour nous occidentaux, ça nous paraît des dessins en fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écritures, en fait. Je sais pas, c'est l'écriture thaï, l'écriture indienne, l'écriture arabe.
Oui, bien sûr.
C'est très, très graphique, tout ça.
Ah oui, complètement. C'est du dessin, d'ailleurs. Les idéogrammes, comme leur nom l'indique, c'est un gramme, autrement dit un dessin, qui va évoquer quelque chose. Oui, une maison, un arbre, etc., etc.
Les Égyptiens.
Voilà, tout à fait, les Égyptiens, oui. De toute façon, il y a des mots qui sont dans le vocabulaire de la bande dessinée et qui sont empruntés effectivement à l'art égyptien, par exemple le phylactère.
Oui.
Voilà, tout à fait. Oui. Pour revenir sur la calligraphie c'est l'art du geste. Et le geste, il est à la fois, on tente à la fois de le maîtriser, mais il est complètement instinctif et c'est en ça qu'il est intéressant.
Très bien. Alors donc ça c'était le samedi, hein, ce dont je parlais, samedi après-midi, la calligraphie. Hein. Ouais. Donc mais il y a plein d'ateliers. Hein, donc vraiment c'est j'allais dire c'est la chose essentielle. Hein. Il n'y a pas que des expositions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et bon, c'est pas que pour les petits. Il y a quand même des choses pour les jeunes. Bon ça c'est normal. Puis bon comme disait Patrick aussi, voilà la transmission avec les jeunes, etc. Ça fait partie aussi de ça fait partie du job, hein, de la passion. Hein, quand on a une passion. Voilà. Alors, en termes de fréquentation, vous avez des réservations, etc. Vous avez déjà une idée un petit peu on se dirige vers quoi un record
record, ce serait bien. Alors, c'est très compliqué à estimer, puisqu'on est quand même dans une région où la benne, s'il fait beau, les gens vont à la plage. S'il pleut, bon. Ils n'ont pas forcément envie, parce que quand il pleut, il pleut vraiment. Oui. Les gens n'ont pas forcément envie de sortir. Donc c'est très compliqué de se positionner, de faire des estimations à l'avance comme ça.
Ouais. C'est vrai.
J'espère qu'on va tourner autour des années précédentes, hein, entre 800 et 1000 visiteurs, à peu près. Pas 800 000, hein, 800 et 1000 visiteurs. 800 000, ce serait pas mal.
Oui. Il faut pas qu'il y ait un match en même temps, quoi.
Non, il faut pas qu'il y ait un match en même temps. Voilà. Après, l'avantage, c'est que comme c'est familial, je parlais des gens qui partaient à la plage, mais ça permet quand même de venir après la plage ou avant.
Ouais, c'est sur deux jours. Donc
le lendemain, c'est sur deux jours.
Ouais, voilà. Alors, il y a aussi, moi, je voulais parler aussi, il y a aussi des choses au parc. Parce qu'à la Benne, on a la chance d'avoir un beau musée, un très beau musée qui est unique dans les Landes, quand même. Voilà, un bel outil. Et donc, il y a des choses qui s'y passent aussi. Il y a des découvertes de schémas, de choses un petit peu plus différentes, des fanzines, des choses un peu plus atypiques, des archives, etc. Un petit rappel pour dire qu'effectivement, la BD n'est pas un art mineur. Quelqu'un l'a dit un jour, hein, de la même manière que pour la chanson. Pourquoi est-ce que raconter des histoires avec des jolies images, tout à coup, ça deviendrait mineur, hein. Ce serait étonnant, ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
c'est un art mineur, oui, si on part du principe qu'on est obligé de se creuser un petit peu pour trouver des idées, on peut parler de mine, mais...
Ouais. En fait, les gens veulent dire que c'est populaire, en fait.
Voilà, en fait, c'est tout le problème de tous les arts populaires que l'on considère comme des arts mineurs sans... j'ai envie de dire sans connaissance, la bande dessinée c'est un travail énorme, d'ailleurs quand on fait travailler les gens sur la création ne serait-ce que d'une page de bande dessinée, qui se rendent compte du temps que ça prend, des connaissances qu'il faut avoir, d'une certaine forme de maîtrise, et il n'y a pas que le dessin, il y a le scénario, il y a la mise en page, il y a le découpage, il y a les couleurs, ça fait appel à tellement, moi des fois je fais rigoler, enfin... de rire jaune plutôt les gamins dans les classes en leur disant tiens aujourd'hui on va faire des maths. Il va falloir quand même calculer les espaces, etc. sur une page C'est un travail énorme. Et là, il s'agit que d'une page. Alors, quand il faut faire un album complet, parfois un an de travail.
Et oui, c'est sûr, il faut gérer tout
voilà,
ça.
Voilà, il faut arriver à gérer tout ça, effectivement.
Alors, d'ailleurs, on peut rencontrer, il y a des dédicaces d'auteurs hein, sur place. Voilà, ça, c'est sympa parce qu'on a tous envie de rencontrer une des personnes dont on apprécie le travail. Donc, il y a une, je ne vais pas dire tout le monde, mais la liste est longue quand même. Il y a pas mal de monde. Il y a plusieurs métiers aussi dans la BD, parce qu'on parlait à l'instant de... Il y a ceux qui dessinent. Des fois, ce n'est pas la même personne qui fait le scénario, ou qui fait les dessins, ou les ancrages. Ça arrive d'être... On n'est pas forcément auteur, compositeur, interprète quand on fait de la BD. Hein, il y a plusieurs aspects.
Oui, tout à fait. On peut être... Il y a des dessinateurs qui sont uniquement dessinateurs, des scénaristes qui sont uniquement scénaristes, mais il y a beaucoup de gens qui font les deux, voire les trois, si l'on rajoute la couleur.
Oui, voilà, oui.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire les trois, donc chaque fois, c'est pas un métier réellement différent, mais c'est une approche un petit peu différente, voilà. Mais effectivement, il faut être un petit peu multitâche, comme on dit, dans ce métier-là, quoi.
Oui, c'est vrai, oui. Alors, je vois aussi qu'il y a une tombola. Alors, moi, ça m'intéresse, ça. Qu'est-ce qu'on peut gagner, parce que...
Alors... sur ce tombeau-là, en général, on peut gagner des œuvres originales, des bandes dessinées, des goodies, tout un tas de lots que peuvent nous mettre à disposition des partenaires ou des artistes. Ça nous permet aussi de faire vivre un petit peu l'association et le festival, puisqu'on est un festival subventionné.
Et puis c'est gratuit, il faut préciser que l'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite.
C'est quand même pas mal.
Oui, puisque le but étant d'ouvrir la porte à tout le monde. Et on parlait justement tout à l'heure des générations. On ne vise pas un public. Nous on vise tout le monde et on veut pouvoir justement proposer un festival intergénérationnel, que des personnes âgées puissent se remémorer leurs moments de lecture de BD, partager ça avec leurs enfants, leurs petits-enfants et puis montrer aussi effectivement que la bande dessinée ce n'est pas un art à dénigrer.
Si
je prends mon exemple, je ne lisais pas. Je ne lisais pas du tout, petit, je ne lisais pas du tout. J'ai lu des bandes dessinées. Au début, je regardais les images, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mince, quand même, bon, j'arrivais à peu près à saisir l'histoire, mais il me fallait quelque chose plus. Et je me suis mis à lire ça, et je suis devenu un gros lecteur de romans grâce à la bande dessinée. Donc je comprends pas trop les gens qui dénigrent la bande dessinée et qui opposent ça, justement, à la lecture de romans.
Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça. Hein. Parce que ça créer des images, c'est un art. Créer des histoires et des textes, c'est un art aussi. Bon.
Tout à fait. On peut même dire que certaines bandes dessinées sont à classer parmi les livres pédagogiques. Je pense à Astérix, par exemple, qui fourmille d'informations, qui fourmille de références, qui sont des vraies références, qui ne sont pas des trucs écrits comme ça uniquement pour faire rigoler les gens, mais qui... voilà. Je sais que nous, quand on était petits, bon, la bande dessinée, c'était effectivement... Il ne fallait surtout pas que ça rentre à l'école. Aujourd'hui, ça fait des années que la bande dessinée est largement rentrée dans les écoles. Parce qu'on s'est aperçu que ça aidait, que ça permettait à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants d'accéder à la lecture.
C'est un cheval de Troie.
Complètement.
Et voilà. Et voilà, on retrouve Paul et Patrick après un petit Indochine, l'aventurier, parce que on en parlait aux antennes. Et oui, Bob Moran. Ben moi, j'ai eu ça entre les mains, gamin. Et c'était trop bien, Bob Moran.
Oui, moi, j'attendais qu'il se fasse dévorer par les chacals, mais...
Heureusement, c'est pas Indochine qui écrivait les scénarios, c'est mieux.
Henri Verne.
Ouais, voilà, je crois qu'on s'en sort mieux. Et alors, donc, on retourne sur ce festival à Benambule. Eh bien, tout ça s'est pas fait par miracle aussi. C'est qu'il y a du monde pour que ça arrive, tout ça.
Il y a du monde qui nous soutient. Alors, déjà, bon, l'équipe, hein, tous les fondateurs de ce festival, les bénévoles qui sont là aussi pour nous soutenir, pour nous aider le jour du festival. Et puis surtout, on est subventionné, c'est de l'argent public. Donc on a la commune qui nous subventionne et qui nous met à disposition du matériel et tout un tas de choses sans quoi on ne pourrait pas le faire. On a la communauté de communes Max qui nous soutient aussi. On a le partenariat avec le parc.
Et oui, oui.
Et on a le département aussi qui nous soutient depuis l'an dernier. Donc tout ça, c'est appréciable. Sans eux, on ne pourrait pas. Hein, parce que même si on essaie de donner des cours et de faire des ateliers durant l'année, faire un festival de cette ampleur, même si c'est un petit festival, c'est pas gratuit.
Oui, bien sûr.
Les artistes ne viennent pas gratuitement. Les auteurs, c'est leur métier, donc il faut les rémunérer.
Ben oui.
Grâce à ces subventions-là, on peut y arriver. On a aussi des partenaires qui nous mettent à disposition du matériel. C'est pas financier, c'est plus du matériel. Donc on a Ozar qui est à Bayonne, qui nous fournit tout le matériel d'atelier. On a également la Fabrique qui nous prête tout ce qui est buvette, tout ce qui nous permet d'avoir un bar.
Oui.
Les Affranchis à la Benne qui nous fait la restauration. Et ensuite pendant le festival, sur place, on a le banc dessiné qui est le libraire affilié Canal BD qui lui va vendre les BD pour qu'elles puissent être dédicacées. On a le Temple des Geeks qui est à mettre son dos aussi à Bayonne, qui est là pour ce petit univers geek aussi.
Oui, bien sûr, c'est toujours c'est toujours un petit peu une la même zone, un petit peu, on s'y retrouve.
Avec. Ouais. Et des confrères à Souvenir FM, donc on a Côte-Sud FM qui nous suit depuis le début, qui nous accompagne aussi, ils sont là normalement le dimanche si tout va bien.
D'accord, alors avant de se quitter, on va rappeler donc les dates, les choses concrètes, ça se passe quand et où?
Alors, ça se passe, c'est les 23-24 mai à La Benne, donc la salle Mairie Sport, c'est une salle de basket qui est contre la mairie, enfin à côté de la mairie. C'est de 10h à 18h sans interruption. Le samedi soir à 20h30, il y a le concert dessiné à la Fabrique Craft Beer. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc il y a un parking tout contre.
Oui.
Ce qui est pratique.
Voilà.
Parce que c'est vrai que la salle est grande. Si on ne peut pas garer les voitures, c'est dommage.
Très bien. Eh bien, messieurs, on va se quitter sur ça. Ben, merci d'être venu nous parler de ça. C'était chouette. Hein. Même si la BD, c'est pas radiophonique a priori, on peut quand même en parler. Hein, on a le droit.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.